Nous sommes venus pour participer à la controverse entre mes plus célèbres voisins, mes plus éminents voisins, Alain Badiou et Jean-Claude Milner, sont deux ex-caliments de la régime. Pas du tout. Ça commence très mal. Donc la controverse commence, je crois.
Si on parlait par caliment, je crois. C'est le poste d'agrégé répéteur, quelqu'un qui préparait le travail à l'agrégation. Je n'ai jamais occupé de mal de choses avec le barrage. Et le poste de la Badiou me paraît d'une façon très différente.
Il y a des micros pour chacun, là.
Moi, j'étais professeur normal à l'époque où il n'y avait plus à proprement parler de caïman, on va dire. Donc, nous ne pouvons pas avoir été caïman pour deux raisons. D'abord, parce que nous ne l'avons pas été. Et deuxièmement, parce que le caïman est une espèce disparue. Donc là, nous avons eu quelques rapports avec le monde.
La controverse a commencé, évidemment c'est avec moi, pas entre eux. Donc, pour poursuivre la présentation, Alain Badiou et Jean-Claude Milner sont tous les deux, d'une certaine manière, issus de la Révolution, par des voies qui sont différentes. Je sens que je vais encore dire des bêtises, donc on va continuer. L'un en restant fidèle à l'imaginaire de la radicalité révolutionnaire. Et finalement, vous pensez que nous traversons une période intervallaire, en attendant un troisième plan du communisme. Et Jean-Claude Milner, en tournant le dos à la politique, dans son ensemble, on pourrait dire, dans une position de scepticisme qu'il définit comme absolu.
Tourner le dos, je ne sais pas si c'est le meilleur mot. En tout cas, je vais me tenir à distance, très certainement. Ainsi tourner le dos, on ne prend plus l'objet en considération, il parle, on cache.
Non, le livre est déjà, ne serait-ce que celui-là.
Voilà. Mais effectivement, de ce point de vue-là, mon parcours est différent de celui de Badiou, et je relève un mot que vous avez employé, que Badiou lui-même emploie, une fidélité. Donc je me flatte de n'être pas fidèle. Et je m'en fais même une maxime. En particulier, je ne suis pas fidèle à telle partie de parcours, la partie révolutionnaire, ou schiste, je me suis
juste... Arrivez à les micros, s'il vous plaît.
Mais si je parle dans le micro, ça fait du bruit.
Et surtout, on vous entend.
Spécialement, je ne suis pas fidèle à de façon générale, à aucune partie de mon parcours. Le démenti me paraît le devoir fondamental de la pensée. Ce démenti.
Oui, moi, nous commençons par une opposition franche, comme combien. Moi, je suis resté fidèle, étant entendu que, en réalité, une fidélité, c'est toujours une transformation. On peut être fidèle à quelque chose que parce qu'on le transforme. Puis simplement, comme le contexte change, comme l'époque n'est plus la même, comme les circonstances ne sont plus les mêmes, être fidèle est un processus difficile, d'ailleurs. Quelquefois, on conçoit la fidélité comme une continuation passive de quelque chose, mais ça n'est jamais cela. Si on en fait la continuation passive de quelque chose, on voit toujours qu'elle devient en réalité non pas une fidélité, mais une habitude, une routine. Or, je soutiens que fidélité est le contraire de la routine, c'est-à-dire c'est une métamorphose plus ou moins complexe qui fait que on peut rester dans la fidélité à quelque chose, en vérité dans mon dispositif, la fidélité à un événement, à une rencontre, à une séquence, mais au prix, bien évidemment, d'une certaine façon, de la réinventer.
Ça donne de l'espoir pour le couple, entre autres. Alors s'il y a controverse, c'est parce qu'il y a eu des moments de friction, voire des moments de rupture. Et si j'ai bien suivi, ça tourne autour de la personnalité au départ, si j'entends bien, de Benny Lévy.
Oui, premièrement, je ne pense pas qu'il y ait raison de dire que s'il y a controverse, il y a eu nécessairement friction. Il peut y avoir controverse sans qu'il y ait friction, sans qu'il y ait rupture. La controverse est un art du langage, du discours, très important en lui-même, que je crois que nous ne maîtrisons plus bien. Je crois que nous n'avons plus cet art de la controverse que quelqu'un comme Leibniz ou comme quelqu'un comme Descartes pratiquait. Mais je répète, il y a eu effectivement fracture et friction. Ça n'était pas la condition nécessaire pour qu'il y ait controverse. Et ça n'était pas non plus une condition suffisante, puisque tant que nous en étions à rupture, il n'y avait pas vraiment de place pour la controverse. La fracture et la friction, je ne vais pas entrer dans les détails géographiques, même si. Mais pour qu'ils soient intéressants, il faudrait qu'ils soient longs, nous n'avons pas le temps. Donc, je m'en tiendrai au minimum. Il est clair que le premier temps de prise de distance concerne précisément ce qui, d'un certain point de vue, aurait pu nous rapprocher, à savoir notre rapport au maoïsme et à la révolution culturelle. Nous en avons eu un l'un et l'autre, et il n'a pas du tout été le même, et surtout, on rappelle que nous parlons là d'une période où la notion de politique passait par la notion d'organisation politique, nous n'appartenons pas à la même organisation. Ce qui voulait dire, à ce moment-là, un rapport extrêmement différent. C'est-à-dire, si on appartenait à des organisations différentes, même si l'une et l'autre se réclamaient aussi fortement du maoïsme et de la révolution culturelle, ça ne pouvait pas être du même point et par les mêmes voies. Donc, la première rapport. Il se trouve que ce premier rapport croise la biographie de Benny Lévy, puisque le fondateur, le dirigeant principal de l'organisation dont je faisais moi partie, récemment la gauche prolétarienne, d'un certain point de vue, mon rapport au maoïsme et à la révolution culturelle était dépendant des propos très articulés tenus par Benny Lévy. Alors que, bien entendu, dans la mesure même où Alain Badiou n'appartenait pas à cette organisation, et dans la mesure où, à cette époque, je vous rappelle cette période, une des autres lois de cette période, une des premières, c'est que s'engager politiquement, c'était faire partie d'une organisation. La deuxième, c'est que si on appartenait à des organisations différentes, elles étaient ennemies de l'autre. Donc, en ne faisant pas partie de la gauche prolétarienne, il est évident que Canavadio devait prendre en compte une distance, mais pas une distance de personne à personne, mais une distance de discours à discours, à l'égard de quelqu'un comme Benny Lévy. Ça, c'est deux éléments importants. Il se trouve qu'ensuite, troisième élément, que dans mon parcours postérieur, lorsque j'ai quitté le monde de l'engagement gauchiste, j'ai rompu avec tout le monde, notamment avec Benny Lévy. Je l'ai retrouvé plus tard, et quand je l'ai retrouvé, il était à Strasbourg, il était engagé dans ce mouvement de retour à l'étude juive qui a marqué toute la fin de sa vie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup importé. Alors que, je ne crois pas déformer les choses, en percevant que pour Alain Badiou, ce type de mouvement n'était pas d'une importance capitale. Et voilà donc des points de divergence. Et ça a entraîné effectivement une rupture personnelle, parce que j'avais mal pris un commentaire que Badiou avait porté sur la personne de Bénédicte.
Juste avant de vous laisser la parole, juste un point aussi pour situer les choses. Il y a aussi dans cette période-là quelque chose qui vous réunit, hein, malgré ces divergences dont vous parlez, c'est les cahiers pour l'analyse.
Ah, c'est pas dans cette période-là.
C'est après les
cahiers pour l'analyse. Ah, c'est encore avant.
C'est avant.
Oui, mais il faut bien que vous compreniez que vous assistez ici à un spectacle d'une grande complexité. Comme vous le voyez tout de suite, dès qu'on essaie de retracer cette histoire, elle est en réalité très compliquée, et il faut bien voir quand même qu'elle occupe un petit demi-siècle. C'est une histoire qui a commencé dans les années 60. Elle a commencé précisément par ce qui a été notre première rencontre autour des cahiers pour l'analyse, c'est-à-dire autour d'une référence commune, qui pouvait être par exemple la référence à Lacan, sans que le fait que la référence soit commune ait jamais signifié, entre nous particulièrement, qu'elle équivalait à un principe d'identité, loin de là. Même à l'époque des cahiers pour l'analyse, nous avions déjà d'importantes divergences théoriques et pratiques. Et finalement, le nom Lacan n'avait pas la même signification, je crois, véritablement, pour l'un et pour l'autre. Après, voilà, mai 68, le maoïsme, etc. Encore une autre référence commune aux apparences, puisque nous sommes en effet l'un et l'autre engagés de ce côté-là. Eh bien, cette référence commune, à nouveau, ne fonctionne pas comme un principe d'identité du tout. Au contraire, elle fonctionne en partie comme un principe d'adversité. Et puis si on arrive au troisième temps dont parlait Jean-Claude Milner, c'est-à-dire l'importance et la signification du nom ou du mot juif, nous écrivons l'un et l'autre sur cette question aussi, finalement. Et donc on pourrait dire encore une troisième référence commune très importante, mais nous ne sommes pas du tout du même avis non plus. Donc une particularité de cette histoire, nous avons traversé les grandes références intellectuelles importantes et nouvelles, politiques et intellectuelles, dans cette période d'un demi-siècle, mais c'est une histoire singulière qui est que presque toujours la référence commune a fonctionné entre nous à travers des systèmes d'interprétation disjoints et même éventuellement sévèrement disjoints. Voilà. Ça, c'était le premier point que je voulais dire, et c'est une histoire intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est une histoire qui est clivée, et elle n'est pas clivée par le référent, elle est clivée par la manière dont le référent fonctionne dans nos dispositifs de pensée à l'un et à l'autre. Eh bien, il faut voir qu'il y a au milieu une petite plage pacifiée. Il y a une plage de pacification au milieu de tout ça, et elle est fondée, cette fois, sur une référence négative. C'est peut-être pour ça qu'elle est pacifiante, d'ailleurs. Elle est fondée sur notre commune hostilité à Mitterrand. Donc, à partir du début des années 80, nous rencontrons, non pas du tout autour d'une référence positive, mais autour du fait que, contrairement, il faut bien le dire, à beaucoup de nos entours intellectuels, nous ne nous rallions pas à cet épisode de gauche. Nous le critiquons d'ailleurs, il faut encore, à des points de vue différents, et sur des questions différentes, mais nous sommes unifiés dans cette référence négative, c'est quand même l'époque où... nous avons des discussions, nous nous voyons tous les 15 ans, nous participons à des entreprises communes, comme les conférences du perroquet, des choses comme ça, et voilà. Alors, je voulais que vous ayez comme ça un panorama de toute cette histoire, marqué par le fait que des référents importants de l'époque ont été en apparence partagés, mais finalement ont fonctionné comme des facteurs de division, et que d'autres référents, parce qu'ils nous étaient en un certain sens indifférents, c'est-à-dire qu'ils étaient ceux à quoi nous ne nous rallions pas, fonctionnaient eux comme des facteurs de rapprochement. Alors, pour conclure, on peut dire que la controverse est l'état actuel de notre rapport, voilà. C'est-à-dire que ça n'est ni un rapport d'adversité difficile, ça n'est pas non plus un rapport de proximité dans une opposition commune, je pense qu'est venu en fait le moment d'un rapport qu'on peut dire de rendant possible la controverse, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a lieu, c'est-à-dire la possibilité que les référents communs ou non communs et les discussions à propos de leur signification puissent être déployées explicitement dans une controverse qui possède son arbitre. Voilà, pour cette historique.
Quand j'ai lu le titre du livre, une controverse, avant même de l'avoir ouvert ou de l'avoir lu, c'est tout de suite associé, c'est tout de suite venu à mon esprit, parce qu'on parle beaucoup finalement de la forme, hein, de votre relation. Il y a deux choses qui me sont venues tout de suite à l'esprit. Une, parce que j'étais en train de travailler dessus, c'est la controverse de Valladolid. Mais j'étais sur la version mythique, c'est-à-dire la version Jean-Claude Carrère, c'est les Amérindiens ont-ils une âme? Moi j'étais en train de me poser la question de savoir si les clones avaient une âme. Et je me disais que finalement ce n'était pas tellement votre question c'est plutôt du côté des noms et des noms qui divisent. C'est-à-dire ce sur quoi finalement on peut appuyer un discours, c'est-à-dire sur le but de la division. Mais j'ai pensé à un autre élément, à une autre forme de la controverse, c'est la marloquette, c'est-à-dire la controverse talmudique, qui elle est fondée, parce que dans la controverse de Valladolid, il y a une réponse, on tranche quelque part. Alors que la particularité de la marloquette, de la controverse talmudique, c'est que ces deux maîtres qui se mettent dans ces deux positions, qui discutent, à partir de questions dans lesquelles il n'y a jamais la mise en place d'une tierce position. C'est-à-dire qu'entre les discours des maîtres se dessine un vide, un néant, parfois ils disent, qui est la potentialité de toutes les autres questions possibles. Et je me disais que dans votre discours, il y a à la fois complémentarité et antagonisme dans cette marloquette qui est la vôtre, mais que la place du vide est occupée par Philippe Petit.
Écoutez, dites-le lui, ça lui fera plaisir.
Je profite du fait qu'il ne soit pas là.
Non, mais je crois que nous voyons assez bien les conditions dans lesquelles cet entretien s'est déroulé, pourquoi le titre de controverse lui convient. Maintenant, de quel type de controverse il s'agit, c'est vrai que ça n'est pas la controverse de Valladolid, sans qu'il n'y a pas d'instance d'église dans laquelle nous inscririons. Je ne crois pas non plus que ce soit la controverse talmudique, puisque la controverse talmudique entre maîtres suppose l'intégralité du Talmud, hormis le point sur lequel la controverse porte, alors que dans notre cas, il n'y a pas d'intégralité d'un discours sur lequel nous serions à chaque fois, sur lequel nous accorderions l'un à l'autre, sauf le point sur lequel... Donc je pense que ça marque les limites de votre rapprochement. Je crois que ce qui serait peut-être plus intéressant, ce serait d'aborder des points, justement. La forme de la controverse a été située. Je pense que maintenant, ce n'est pas rare d'aborder des points qui ont pu, entre nous, faire apparaître.
Je crois que si on aborde maintenant les points, je pense que le point principal sur lequel s'appuient beaucoup d'autres, c'est votre position réciproque par rapport à la question de la politique. Et de la place dans ce jeu de la politique des corps parlants, si je peux dire comme ça. Parce que je crois que c'est assez fondamental pour saisir un certain nombre d'autres éléments. Vous êtes dans des positions à cet endroit-là qui sont tout à fait précises et... différentes, et je crois que chacune d'elles porte quelque chose, des outils qui peuvent nous aider à appréhender ce que nous vivons entre autres aujourd'hui. Je ne sais pas si...
Oui, juste une remarque méthodologique qui peut aussi donner un ordre à notre discussion. Je pense que, bien évidemment, la question de la politique opère notamment dans la controverse, en toute la première partie de la controverse comme un élément clivant et déterminant, mais peut-être y a-t-il des niveaux différents. Je pense par exemple que notre discours sur la question de l'universalité est très important. C'est plus philosophique, mais ça a aussi des ricochets sur la question politique. Bon, ben on y reviendra. Je pense que sur la question de la politique, peut-être plus précisément de qu'est-ce que c'est qu'une politique, ou à partir de quel moment peut-on dire que la politique existe véritablement, il y a en effet deux dispositifs qui ne coïncident pas du tout. Jean-Claude Mézenc pourra développer son propre dispositif, mais il a déjà indiqué que, en définitive, ce qui constitue le réel de tout cela, ce sont les corps parlants, ce qu'il appelle les corps parlants, c'est-à-dire le complexe du corps et de la parole, inséparé, en un certain sens, et que il en résulte qu'en définitive, il n'y a qu'un seul impératif politique qu'on puisse dire totalement rigoureux, et cet impératif, c'est l'interdiction de la mise à mort. Si, en effet, ce qui est de l'ordre du corps parlant, la mise à mort est la négation radicale de cela, et l'interdiction de cette négation radicale constitue le point de départ de la positivité possible d'une politique. Je n'en ai pas plus, parce qu'il pourra reprendre évidemment lui-même cette idée. Je pense pour ma part que cette conception, cette vision de la politique est absolument insuffisante. C'est-à-dire qu'en définitive, elle est insuffisante parce que elle donne de la politique une définition négative. La politique, c'est en réalité l'action, la disposition légale, active, pratique, qui vise à empêcher les massacres. Et cette définition est significative, elle est tout à fait compréhensible, mais elle est de part en part négative. Et je pense qu'une définition strictement négative de la politique n'atteint pas le cœur réel de ce que c'est qu'une politique. Voilà. C'est là qu'est la divergence, en vérité. Alors, mais je ne veux pas en dire plus. Je voudrais que Jean-Claude Milner, d'abord, vous présente une version raffinée de sa position, et non pas la version donnée par quelqu'un qui, justement, la juge incomplète, insuffisante et fallacieuse.
D'autres concernant la politique, mais aussi d'autres objets, un parti pris que je qualifie volontiers de minimaliste, c'est-à-dire que j'essaie de donner une définition qui permette de repérer l'objet qui contient aussi peu de détermination que possible. D'un certain point de vue, c'est un choix de principe de ma part. Ça, c'est la première remarque. Le deuxième point, c'est que je parle effectivement de la notion d'être parlant et de corps parlant. Faisons valoir que si les êtres parlants n'avaient pas de corps, ils ne parleraient pas, et j'ajoute que s'ils n'étaient pas fondamentalement plusieurs, la question de la politique ne se pose pas. Donc pourquoi se pose-t-elle? Et pourquoi j'accorde à la question de la mise à mort l'importance que je lui accorde? C'est parce que il y a un réel de ce qu'on pourrait appeler l'être parlant, ou l'être parlant, c'est que on ne parle pas à plusieurs en même temps. La loi de la nécessité s'impose. L'être parlant n'est parlant qu'aussi longtemps qu'il parle, et aussi longtemps qu'il parle, il est seul à parler. Qu'après, on fasse la loi, la dimension de dialogue, de circulation de la parole, ça, c'est autre chose. À mes yeux, la dimension première, fondamentale, c'est l'unicité de l'être parlant. Il est parlant aussi longtemps qu'il parle, et aussi longtemps qu'il parle, il est seul à parler. De là suit la tentation de ce que j'appellerais la solution définitive, qui est effectivement la dimension de la mise à bord de tout autre être là. C'est une solution définitive, et je rappellerai que solution définitive, c'est la traduction exacte de ce qu'on traduit généralement par solution finale. Et je pense que ce n'est pas ça encore. D'un point de vue conceptuel, pas empirique. Ça veut donc dire que le choix pour les êtres parlants est confronté au réel qu'ils sont plusieurs, à cet autre réel que ne peuvent pas être plusieurs à parler dans le même espace et dans le même instant, la contrainte de l'unicité doit être résolue. Alors, soit elle est résolue par la solution définitive, qui est la mise à mort, et la politique consiste précisément à dire non, la mise à mort n'est pas nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas nécessaire de mettre à mort un être parlant pour qu'il se taise, pour qu'il cède, je ne sais pas. Découvrir que la mort n'est pas nécessaire pour contraindre un être parlant au silence, c'est à mon avis le point de départ de la politique. À partir de là, on peut enrichir la description précisément par des éléments de description. Et c'est ça qui est le point de départ.
C'est la question du tyran.
Mais on peut après, la question du tyran rajoute déjà, si vous voulez, on peut aussi bien penser à la démocratie comme une loi du silence accepté. Par tous, ou à la tyrannie comme une loi du silence imposée. Ça, si je veux dire, ce sont des suppléments des critiques. Mais le point de départ, c'est cet entrechamp entre ces deux dimensions réelles, l'une qui est la dimension réelle de la multiplicité. Sur ce point, je sais que Calabadiou accorde à la multiplicité une importance fondamentale, moi aussi, et le deuxième point qui est que cette multiplicité interdit la simultanéité. C'est l'entrechoc de ces deux impossibles qui fait surgir la dimension de la mise à mort comme solution définitive et le refus de cette solution définitive comme point d'essence de la vie.
Oui, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord sur l'axiomatique. C'est-à-dire que je suis absolument convaincu que dans toute prise de parole, la considération de l'autre est précisément incluse. C'est-à-dire que toute parole est adressée. C'est un peu comme ça, que j'interprète le fait que la catégorie de parole symbolique en général chez Lacan soit désigné par le symbole de l'autre, grand autre. L'autre est toujours immédiatement immanent dans toute parole parce que toute parole est adressée. L'idée d'un soliloque séparé de tous les autres est une vision de la parole tout à fait abstraite. Si on parle seul, en réalité, on n'a pas besoin de parler. D'ailleurs, celui qui parle seul est universellement considéré comme un fou. Et pourquoi il est considéré comme un fou? Parce qu'il est considéré comme n'appartenant pas vraiment au régime de la parole. Et si la parole était adressée, ce que je crois constitutif de son existence même, on ne peut pas réduire la multiplicité à une multiplicité de stricte coexistence. Et la multiplicité des hommes est toujours structurée par des relations singulières, qui peuvent être des relations de tous ordres. Mais il n'est pas possible de construire quoi que ce soit qui ressemble à la politique à partir d'une vision atomistique de l'humanité. C'est-à-dire une coexistence de corps parlants, tel que si un seul parle, tous les autres doivent se taire. Je pense que c'est tout simplement une axiomatique erronée. Voilà. Une axiomatique fausse. Et que toute multiplicité est toujours, en un certain sens, préstructurée par des relations, et parmi ces relations, en circulation sur ces relations, il a la parole comme parole toujours adressée, y compris éventuellement sur le mode autoritaire. C'est-à-dire même si on dit tais-toi, on implique l'existence de l'autre, de façon radicale. Et donc cette parole n'est pas une parole de soi à soi, elle est toujours une parole de soi à l'autre. En vérité, celui à qui on dit de se taire, on attend qu'il ait entendu ce qu'on dit pour le faire. Et donc on présuppose que quelqu'un écoute ce qu'on dit dès qu'on parle, même si c'est pour lui de se taire. Et s'il répond oui, je me tais, on est content. On est content parce que la circulation effective de la relation entre corps parlant a fonctionné. C'est aussi la raison pour laquelle toute parole est un message dont on reçoit la réception par l'autre, et c'est constitutif de son existence, même si, comme le disait Lacan, on la reçoit sous sa forme inversée, c'est-à-dire sous sa forme qui la retourne vers elle-même. Voilà pourquoi je pense que la mise à mort n'est pas du tout une donnée intrinsèque de la relation entre le corps parlant. C'est une solution lorsque la parole consiste exclusivement à déclarer qu'un type de parole est seul légitime. Mais il ne faut pas confondre le fait de dire qu'un corps parlant interdit aux autres de parler, de dire qu'un seul type de discours est légitime. Parce que le type de discours légitime, ça veut dire tout un ensemble de relations. Si par exemple Hitler dit que en Allemagne seul le discours des Ariens est légitime et que tous les autres doivent être massacrés, ça se réfère à bien autre chose qu'aux relations atomistiques entre les corps parlants, naturellement. Ça se réfère à un ensemble symbolique constitué qui fait qu'on estime que la parole adressée ne peut l'être que dans ce système symbolique particulier et non pas dans un autre système considéré comme antagonique. Alors, je pense que la politique commence non pas dans la stricte figure négative d'une parole qui interdirait d'autres paroles et des problèmes que ça pose de régulation, mais que la politique commence au contraire lorsque on spécifie le type d'adresse de la parole, c'est-à-dire quand on spécifie le régime du discours dans lequel elle va se déployer, et là en effet on va avoir des discours dont l'adresse est universalisante, des discours dont l'adresse est restreinte, et on aura toute la gamme des discours politiques, nationaux, de classe, de corporation, de revendication, de protestation, à l'intérieur desquels une politique singulière procède à ses propres choix. Alors voilà, c'était simplement pour dire que, comme il arrive souvent, point de désaccord, là, est en quelque manière ontologique. Et c'est pas une politique qui s'oppose à une autre. Si on dit simplement ça, on ne voit pas bien la nature du débat. La nature du débat, c'est est-ce que la représentation du terrain sur lequel se définit éventuellement une politique peut être ramenée à une atomistique de corps parlant, ou est-ce qu'elle présuppose toujours des réseaux de relations infiniment plus ratifiés.